Chapitre 8. Tony et Jake parvinrent à s'entretenir avec Mrs. Ryan, mais ils n'en tirèrent rien de plus qu'Agatha. Elle confirma, cependant, que la vieille Mrs. Marmalade avait fait vivre un enfer à sa fille. Tony semblait soucieuse et écoutait à peine, ce qui intrigua Jake. Au sortir de chez Mrs. Ryan, ils se rendirent néanmoins chez plusieurs villageois. Partout, ils entendirent le même refrain. Mrs. Bull était une femme odieuse qui adorait exhumer les secrets des autres. Les faisait-elle chanter? Non, répliqua chacun. Pas moi, en tout cas. Évidemment, commenta Jake, aucun d'entre eux n'est disposé à avouer qu'il y a dans sa vie quelque chose qui puisse donner prise au chantage. Tony, tu es dans les nuages? Désolé, je suis un peu fatiguée. Rentrons chacun chez soi et mettons au propre le peu d'éléments que nous avons recueillis ce matin. Mais après avoir déposé Jake à Mercer, elle sentit que sa conscience bourrelée de remords lui interdirait le sommeil, et elle prit la direction de Carsley au lieu de regagner son domicile. Agatha lui ouvrit avec un curieux ustensile au bout phosphorescent vissé au coin de sa bouche. Son visage était éclairé d'une lueur verdâtre, lui donnant l'apparence d'un vampire. « Saleté de cigarette électronique » grogna-t-elle. « Je commence à perdre espoir. Entrez, avez-vous déniché quelque chose d'intéressant ?»« Oui, » marmonna Tony, se faufilant derrière elle vers la cuisine, où elle s'accroupit pour caresser les chats. « Mais ça ne va pas vous plaire. Un verre ? J'aimerais bien, mais je conduis et j'ai déjà bu du cidre et du vin de pissenlit. Du café, ce serait parfait. Mais qu'est-ce que vous faites ?» Agatha était en train d'ôter l'opercule de capsules en plastique. « J'ai acheté ça par erreur. Ces petits trucs-là sont destinés au genre de machines pour lesquelles George Clooney fait de la publicité. Mais j'ai une bonne vieille cafetière. Je vide les bidules dedans et ça fait un excellent café. Juste le temps de faire bouillir l'eau. » Enfin, le café fut prêt et Tony s'assit à la table. « Allez, videz votre sac !» la pressa Agatha. « Rien ne peut me choquer. Je pourrais être votre sœur aînée. » « Je crois que j'ai aidé un meurtrier à dissimuler son crime. »« Pas celui de Billington. C'est le seul qui me rapporte un peu d'argent. »« Non, je vais vous expliquer. » Agatha écouta attentivement l'histoire de Cassandra Marmalade, puis le récit achevé, se mit à arpenter la cuisine. Sa chemise de nuit en soie froufroutait doucement sous son kimono aux couleurs vives. « Laissez-moi réfléchir, » dit-elle. « Charles est là, je vais le chercher. Il a dû s'endormir devant la télévision. » « Encore une nouvelle complication, » pensa Tony avec accablement.
« Qu'est-ce qu'il y a encore, Agatha ?»
fit Charles en entrant dans la cuisine sur les talons d'Agatha.
« Si c'est parce que je suis allé voir Mary Feathers, permets-moi de te signaler que ça ne te regarde pas. »«
Ce n'est pas ça. »«
Quoi ?
Mais pourquoi ?»«
Laisse tomber, Aggie. J'ai le droit d'avoir une vie privée. De quoi s'agit-il, Tony ?»
Tony recommença son récit.
« Oh, quel merdier !»
grogna Charles. « Et maintenant, vous soupçonnez Cassandra d'avoir expédié Mrs. Bull au fond du puits parce qu'elle avait découvert que Cassandra avait poussé sa chère maman dans l'escalier. « Je ne suis pas allée aussi loin, » gémit Tony. « J'avais seulement le pénible sentiment de l'avoir aidée à dissimuler l'assassinat de sa mère. J'étais tellement désolée pour elle. Sa mère semble vraiment lui avoir fait vivre un enfer. »
Nous lui rendrons tout bonnement visite demain matin, Agatha et moi,
répondit Charles d'un ton apaisant.
Nous lui exposerons les faits qui vous ont tant perturbé, après quoi nous verrons bien si elle nous paraît coupable. Mais toutes les morts subites font l'objet d'une enquête. Ne vous tourmentez pas. Faites un peu confiance à vos sages et vénérables aînés.
Vous n'en avez pas parlé à Jake ? S'inquiéta Agatha. Non, pas un mot. Très bien. Sauvez-vous et tâchez de dormir un peu. « Demain matin, chargez-vous de mon travail et répartissez les missions. Mettez Jake en binôme avec Phil. » Le lendemain matin, Agatha conserva un silence inaccoutumé tout le long de la route vers Harby. Elle ne voulait pas se l'avouer, mais elle en était venue à considérer Charles comme son bien propre. Certes, il avait déjà disparu par le passé, et il avait réellement été fiancé. Il avait même été marié. Mais voilà un moment qu'il paraissait libre comme l'air. Les feuilles d'automne dansaient et tourbillonnaient devant la voiture, comme pour rappeler à la femme mûre qu'elle était, par mille pirouettes narquoises, qu'à la fin des fins, rien n'échappe à la mort. Arrivés à destination, ils gagnèrent la maison grâce aux indications de Tony. Ce fut Cassandra en personne qui leur ouvrit. Les présentations faites, Agatha lui annonça qu'il souhaitait s'entretenir avec elle d'une affaire très importante. Elle les conduisit jusqu'au salon. « J'ai l'impression d'être de retour au pensionnat, à attendre devant le bureau de la directrice. Vous avez une expression si grave, tous les deux !» Agatha jeta à Charles un coup d'œil implorant. Il se chargea donc de lui relater les soupçons de Tony et lui peignit les tourments de la jeune fille à l'idée d'avoir contribué à dissimuler un meurtre. « Oh ça !» s'exclama Cassandra. « Mais ce n'est rien du tout! C'était Mrs. Terry. Je lui ai signifié son renvoi le jour même de la mort de maman. C'est une méchante femme tyrannique. Elle a bricolé ce truc et raconté à tout le monde que j'avais tendu une corde en travers de l'escalier. C'était après l'enquête de la police. J'ai signalé à Mrs. Terry qu'elle avait laissé ses empreintes sur le clou, juste pour le plaisir de la voir verdir. C'est bizarre qu'elle ne l'ait pas arrachée ou essuyée elle-même, s'étonna Agatha. Ça aurait été avoué qu'elle y avait mis. Oh, quel bon débarras! Elle est ma sainte mère!
Vous n'avez jamais eu envie de supprimer votre mère? Questionna Charles avec curiosité.
Maintes et maintes fois, mais je suis un autre Shostakovich.
C'est une marque de vodka, s'informa Agatha.
Non, un compositeur russe qui a demandé à adhérer au Parti communiste alors qu'il haïssait le communisme. La veille de son adhésion, il s'est effondré en se traitant de lâche et d'ordure et en s'accusant de l'avoir été toute sa vie. C'était tout moi. J'avais peur de mon ombre. Elle m'a brisée, petit à petit, après la mort de papa. Je suis enfin libre. Je vais voyager. Mais il faut que je cherche une dame de compagnie, parce que je n'ai même pas le cran de partir seule.
Peut-être qu'un bon psychiatre, suggéra Charles.
Je ne crois pas du tout à ce blabla.
Vous devriez essayer ? Intervint aigrement Agatha, vexée de n'avoir pas connu le nom de ce satané compositeur.
Parce que ça a marché pour vous, répliqua Cassandra.
Moi, ma chère, je n'en ai jamais eu besoin.
En fait, interrompit Charles d'une voix conciliante, nous désirions également vous consulter au sujet du meurtre de Bellington. Auriez-vous la moindre idée sur l'identité du coupable?
Tant de gens le détestaient. La hausse de loyer avait mis tout le village en fureur. Je ne pense pas qu'il y ait de lien entre sa mort et l'agression de Mrs. Boole. C'était une épouvantable mégère. Quelqu'un a dû craquer, c'est tout. Quant au Bellington, maman adorait me traîner chez eux quand elle récoltait des fonds pour ses œuvres. Comme elle rampait devant eux. Croyez-moi, dans cette famille, ils sont tous tarés.
Au sortir de chez Cassandra, Agatha céda à un moment d'abattement.
« N'allons jamais arriver à résoudre cette affaire, » déclara-t-elle d'un ton lugubre. « Il y a trop de suspects et me voilà encombrée de ce bras cassé de Jake par-dessus le marché. » Plus vite je parviendrai à caser ce garçon, mieux ça vaudra.
Ça t'apprendra. Tu n'as jamais su résister à un physique séduisant.
Ah vraiment? Alors pourquoi les hommes de ma vie sont-ils si laids?
Espèce de garce, rentre tes griffes, Agatha.
Et ils continuèrent de se chamailler sans se douter que Jake allait réaliser la première avancée notable de l'enquête. Jake avait passé une journée assez agréable en compagnie de Phil, mais son rôle s'était essentiellement limité à tenir l'étui de l'appareil de Phil, tandis que celui-ci photographiait une femme adultère. Quand vint le soir, il fut gagné par un accès de bougeotte et se rendit à Carsley pour discuter avec Agatha. Faute de la trouver chez elle, il fit un tour dans le village. Il aboutit, en haut de la colline, devant l'affreux cottage de briques rouges où Pita avait vécu. Une jolie brunette sarclait le jardin. Jake se pencha par-dessus la haie.
« Vous avez l'habitude de désherber au clair de lune ?»
Elle se redressa.
« C'est juste pour m'occuper. Vous voulez un café ? Moi, j'en prendrai bien un. Je suis la sœur de Pita, Allison. Vous habitez au village ?»«
Non, je suis détective. »
Il la suivit dans la maison.
« Vous avez beaucoup de nettoyage à faire ?» constata-t-il avec compassion.
« Il y a de la poudre à empreintes digitales partout. On a vidé tous les tiroirs par terre et tout laissé en plan. » J'ai été surprise qu'elle me désigne comme son héritière. Elle m'a toujours détestée.
Jake la suivit dans la cuisine. Allison devait approcher la quarantaine, jugea-t-il. Un peu plus vieille, donc, qu'il ne se l'était figuré au premier abord. Elle avait un visage sympathique et une silhouette tout en rondeur qui débordait quelque peu de son jean. Elle brancha la bouilloire.
« Je n'ai que du café soluble. Ça me va très bien. » Puis-je vous aider d'une manière ou d'une autre ?
Peut-être. J'ai horreur de conduire la nuit et le notaire m'a donné les clés d'un garde-meuble à Mercer qu'il aurait dû remettre à la police. J'aimerais bien y jeter un coup d'œil avant.
Je vais vous emmener et peut-être que nous trouvons quelque chose qui nous mettra sur la piste de l'assassin.
Au grand soulagement de Jake, le garde-meuble George était ouvert 24 heures sur 24. On les guida jusqu'au box 204 et on les abandonna dans un couloir sombre entre deux rangées de portes fermées. Allison défit le cadenas. Jake souleva le volet roulant et chercha à tâtons l'interrupteur. Des meubles disparates se dessinèrent parmi les ombres projetées par la faible ampoule qui pendait du plafond. Jake repéra quelques très belles pièces.
« Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Allison anxieusement en indiquant une forme indistincte enveloppée dans une couverture à même le sol.
« Reculez et laissez-moi vérifier, » intima Jake. « Ça pourrait être un cadavre. Nous devrions peut-être appeler la police. Nous risquons de souiller la scène d'un crime. »
« Ils ne seraient pas très contents qu'on les dérange pour de vieux tapis. »
Jake arracha la couverture. Tous deux écarquillèrent les yeux.
« Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» souffla Allison.
« C'est une courge géante. C'est celle de Harry Perry. »«
Harry qui ?»«
Un vieux bonhomme qui cultive un des jardins ouvriers. J'ai lu tout ça dans les notes d'Agatha. Les gens du village se plaignaient que quelqu'un pillait leur potager. Et regardez dans ce coin. » Il y a des paniers pleins de légumes à moitié pourris. Est-ce que votre sœur était folle ?
Non, seulement méchante. Elle se figurait toujours que les autres, quels qu'ils soient, étaient plus favorisés qu'elle, et elle essayait de compenser en chapardant.
Nous ne pourrions pas simplement refermer le box et faire comme si nous n'étions pas au courant ?
Rien que l'idée de devoir chercher les propriétaires de toutes ces choses.
C'est la police qui s'en occupera. Tout ça doit être très pénible pour vous. Vous ne voulez pas aller patienter dans la voiture ? Il vaudrait mieux que j'appelle ma patronne.
Non, je vais attendre ici. Ça va, ma sœur et moi n'étions pas proches du tout.
Agatha se préparait à se coucher. Charles était resté pour la nuit et elle eut soudain très envie de l'inviter à la rejoindre afin qu'il la prenne dans ses bras et lui prouve que toute femme mûre qu'elle fût, elle existait encore sexuellement.
Pas de sexe à la petite semaine, la morigénait sa conscience.
Et pourquoi pas ?
Rétorquait-elle quand le téléphone sonna. Elle écouta Jake lui décrire avec excitation sa trouvaille.
« Ne bougez pas !» commanda-t-elle. « J'arrive dès que possible !»
Agatha cligna des yeux dans la faible lumière du garde-meuble.
« Elle devait être plus ou moins kleptomane. Désolée, Allison. »«
Nous n'étions pas très proches, » dit Allison avec un haussement d'épaule. « Pour se venger des gens qu'elle n'aimait pas, elle leur volait quelque chose. »
J'ai trouvé ce portrait.
Jake, qui avait disparu dans l'ombre, réapparut avec un portrait à l'huile de Nigel Faraday plus jeune.
C'est son ex-mari, expliqua Agatha. Avant d'appeler la police, j'aimerais bien trouver des papiers. Un journal intime ou un document de ce genre.
Trois colonnes à la une. Une grande détective découvre un journal intime dans le tiroir secret d'un bureau ancien.
Persifla Charles.
Arrête de ricaner et cherchons tous. « Il n'y a pas de cadavre ici, donc ce n'est pas le théâtre d'un crime. »«
Si, justement !»
la contredit Charles, sur lequel tous les yeux se braquèrent.
« Quel crime ? Où ça ?» demanda Agatha.
« Vous ne comprenez pas la psychologie des jardiniers, » déclara Charles, l'index tendu vers la courge géante. « Pour le vieil Harry, c'était comme si elle avait enlevé son enfant pour le laisser mourir. »
Mais s'il ne savait pas où était cette fameuse courge, ni qui l'avait prise, il n'avait aucune raison de tuer Pita.
À moins qu'elle ne lui ait réclamé une rançon, intervint Allison d'une petite voix triste.
Une de ses devises favorites, c'était « Je fais payer cher, elle aimait le pouvoir ».
Il pourrait y avoir des lettres ou quelque chose caché par ici, dit Agatha. La police n'a rien trouvé de compromettant chez elle, n'est-ce pas ?
Allison secoua la tête.
S'il y a quelque chose, c'est sans doute dans cette serviette, près de la porte, suggéra Jake.
Ils se retournèrent tous et regardèrent dans la direction qu'il indiquait. Une serviette de cuir noir était posée derrière un fauteuil à bascule.
« Ne devrions-nous pas laisser la police s'en occuper ?» demanda Allison.
« Rien qu'un coup d'œil !» insista Agatha.
Le visage d'ordinaire si avenant d'Allison se durcit soudain et prit une expression obstinée.
« Non !» trancha-t-elle. « Il est hors de question que vous continuiez à fouiller ici. Je vais avertir la police !»
C'était ma sœur après tout, et tout ce qui restait de notre famille.
Mais mon petit, gémit Agatha, cette serviette contient peut-être la preuve qui permettra de confondre l'assassin.
Je m'en moque, s'emporta Allison. Je veux que vous partiez tous, tout de suite.
Si c'est ce que vous souhaitez, intervint Jake, je vais juste éteindre la lumière et vous aider à refermer. Le garde-meuble fut brusquement plongé dans l'obscurité.
Rallumez immédiatement, tempêta Allison. Allez-vous-en, moi je reste là et j'appelle la police.
Jake tâtonna et fourragea dans le noir, puis finit par retrouver le bouton électrique.
J'informe immédiatement la police avant qu'elle n'ait eu le temps de détruire des indices, décréta Agatha en arrivant à la voiture. Je me demande bien ce qu'il y avait dans cette serviette.
Une sorte de livre, l'informa Jake en tirant son butin de dessous son chandail.
Jake, s'il y a là-dedans le moindre élément qui conduise à l'assassin, nous ne pourrons pas nous en servir. Nous aurions dû le laisser sur les lieux.
Phil m'a prêté un appareil pour m'exercer à photographier des documents, répondit Jake vivement. Je vais m'installer dans ma voiture et prendre autant de clichés que je pourrai, et ensuite je me débrouillerai pour le rapporter.
D'accord, mais dépêchez-vous et enfilez cette paire de gants.
Agatha dut lutter contre une furieuse envie de se ronger les ongles pendant que Jake, dans sa voiture, le plafonnier allumé, mitraillait le livre. Puis elle entendit le hurlement des sirènes.
Les voilà ! Lui cria-t-elle. « Rapportez-le vite !»
Jake galopa jusqu'au garde-meuble.
« La police arrive !»
cria-t-il à Allison, qui furetait dans les profondeurs obscures de la pièce. Jake jeta un coup d'œil autour de lui et lança le livre dans un coin où il tomba bruyamment.
« Qu'est-ce que c'était ?» s'exclama Allison. « J'ai trébuché sur je ne sais quoi !»
répondit Jake gaiement.
« Je vais rester dans les parages et je vous ramènerai chez vous. »
« Non !» Je demanderai à la police de me raccompagner. Je n'aime pas l'idée que des détectives privés fouinent par ici. Ça a quelque chose de sordide et de mesquin. » Quand les policiers arrivèrent, Jake fit une brève déposition, puis rejoignit Agatha et Charles au cottage, où il transféra ses clichés sur l'ordinateur d'Agatha.
« C'est un journal ?» demanda Agatha avidement.
« Non, rien d'autre que la liste de frais d'un député.
Celle de Faraday, sans doute. »
« Oui, il était compromis dans le scandale des dépenses du Parlement en 2009, » déclara Charles. « Regardez la date. Cela remonte à il y a quelques années, probablement à l'époque où ils étaient mariés. Ça ne peut servir à rien. »
« Il y avait une lettre avec, » confessa Jake, l'air coupable. « Une feuille à part. Elle ne faisait pas partie du livre de compte. Peut-être que je n'aurais pas dû la soustraire. »
Il tira un papier de sa poche.
« Voyons ça, » dit Agatha avec lassitude.
« Sans doute une liste de courses. »«
C'est un bout de lettre, » répondit Charles qui lut tout haut. « Le fils à Peter, Wayne, il vous a vu prendre ma courge, espèce de garce, et je m'en vas vous montrer de quel bois je me chauffe. Rapportez-la où ça va barder pour vous. J'ai été à la police, mais si ils font rien du tout, « alors c'est moi qui va m'en charger. »«
Ce doit être Harry Perry, » déclara Agatha.
« Il vaudrait mieux montrer ça à la police, » conseilla Charles.
« Je veux prouver à Wilkes et à Gérald que je suis plus forte qu'eux. Je vais aller trouver Harry, enregistrer ses aveux et les leur porter. »«
Génial !» s'écria Jake en étreignant Agatha et en lui plaquant une bise sur la joue.
« Agatha, tu n'es même pas payée pour découvrir qui a tué Pita !»
se récria Charles d'une voix mordante.
« C'est de la vanité pure et simple. Tu vas juste risquer de te prendre un bon coup de pioche sur la tête au passage. Moi, je rentre chez moi. »
« Aïe !» s'exclama Jake. « Ça, c'était méchant. »
« Il n'est pas comme ça d'habitude. Hein.
Eh bien, allons réveiller ce brave vieux. J'emporte mon magnéto. »
Sur la route qui menait au logement social à la sortie du village, Agatha ne cessa de se tourmenter au sujet de Charles. Son départ irrité lui avait laissé un étrange sentiment d'abandon. Elle commença à regretter de ne pas avoir remis au lendemain matin la confrontation avec Harry. Jake, en revanche, bouillonnait d'excitation. Son beau visage rayonnait et ses yeux bleus scintillaient.
« Il est marié ?» demanda-t-il.
« Je ne crois pas. Il me semble qu'il est question du décès de sa femme quelque part dans nos notes sur l'enquête.
Nous y voilà. Il y a de la lumière au rez-de-chaussée et j'entends la télévision. Quelle heure est-il ?
« Une heure du matin ?»«
Ce n'est pas une heure pour déranger les gens.
Si, si, allons-y !» s'écria Jake. « On ne va pas se laisser doubler par la police !»«
Mais nous ne savons pas s'il l'a tué !» protesta Agatha.
« Vous voulez laisser faire la police ?»«
Non. Bon, d'accord. Allons-y. »
Harry Perry vint leur ouvrir. Il était tout habillé, mais arborait une barbe de 3 jours et dégageait une forte odeur d'alcool.
« Nous avons retrouvé votre courge, » lui dit Agatha.
Harry la regarda, l'air hébété.
« Vous avez retrouvé ma Bertha ?»«
Bertha ?
C'est comme ça que je l'appelle ? Bertha la belle ! Faut que j'aille la chercher !»«
Elle est entre les mains de la police. Pouvons-nous entrer ?»«
Oui, oui, entrez ! Oh, ma Bertha ! La reine des courges !»
Ils le suivirent dans un petit salon propre et chaleureux. Harry éteignit la télévision et Agatha alluma un puissant magnétophone miniature. Elle se préparait à entamer un long interrogatoire lorsque Jake attaqua sur un ton enjoué.
« Ça a dû vous rendre fou qu'elle vous vole cette courge. Vous l'avez assommée ?»«
Elle s'est moquée de moi. Elle allait donner ma Bertha à un restaurant Shintok où on la servira en rondelle. Et elle était plantée là à se moquer de moi. C'était tard le soir et il n'y avait plus que nous deux au potager. » J'ai attrapé ma pelle. Et j'en ai collé un coup sur le crâne. J'étais tellement en colère. Je voulais pas la tuer. Mais elle était morte. Alors je l'ai enterrée.
La police va venir vous chercher, Harry, avertit doucement Agatha.
Eh ben, je serai soulagée, fit-il avec un grand soupir. J'ai toujours été un bon chrétien. Et jamais j'ai fait de mal à une mouche. Mais ce qu'elle avait fait à ma Bertha, c'était cruel.
Bertha est dans un garde-meuble, elle n'a pas été découpée. Voulez-vous nous accompagner? Je pense que la police sera là-bas et vous pourrez voir votre courge.
Wilkes pivota brutalement sur lui-même, furieux, lorsqu'Henry se précipita dans le box pour tomber à genoux devant sa courge.
« Que diable fichez-vous ici avec cet homme ? »
hurla-t-il.
« Il veut dire adieu à sa courge avant de vous raconter comment il a tué Pythagore, » répliqua Agatha.
J'ai enregistré ses aveux.
Ça aurait dû être son heure de gloire, mais le visage courroucé de Charles ne cessait de la hanter. On les interrogea jusqu'au petit jour, puis on les libéra enfin.
Je peux rester, quémanda Jake en arrivant devant le cottage d'Agatha. Je suis mort de fatigue.
Charles est parti, vous pouvez prendre la chambre d'amis. Après une caresse à ses chats, Agatha monta se coucher épuisée. Une aube rouge sang embrasait ses fenêtres. Elle se doucha, se mit au lit et y trouva Jake.
« Vous vous êtes trompé de chambre ? » fit-elle.
Il l'enlaça, se mit à l'embrasser fougueusement et Agatha plongea dans un océan illuminé de passion. Quand Tony et Simon se retrouvèrent au bureau dans la matinée, Tony le prévint qu'elle avait reçu un texto d'Agatha. Apparemment, elle et Jake ont découvert que Harry Perry était l'assassin de Pita. Je me demande si elle va venir aujourd'hui.
Notre jeune amie a probablement réussi à s'envoyer en l'air avec elle à l'heure qu'il est.
Tu dis vague? Elle a l'âge d'être sa mère.
N'empêche qu'elle lui plaît vachement, ça sautait aux yeux.
Arrête un peu. Agatha se réveilla angoissée avec le sentiment d'avoir commis une erreur monumentale. La mémoire lui revint brutalement. Jake. Il n'y avait personne à côté d'elle dans le lit. Comment pouvait-elle s'être comportée aussi stupidement? Bon sang! Est-ce que Charles avait pressenti que cela finirait comme cela? Elle se leva péniblement, se doucha et s'habilla avant de descendre.
« Le petit jeune a dit qu'il vous verra au bureau !» annonça Doris Simpson en lui tendant une tasse de café.
« Oui, merci. J'ai oublié quelque chose. »
Elle remonta l'escalier 4 à 4, fonça dans sa chambre, arracha les draps de son lit, redescendit en trombe et les fourra dans la machine à laver.
« J'allais le faire !» lui dit Doris.
« Ça ira !» fit Agatha en lançant le programme.
« Vous avez oublié la lessive !
Au diable, la lessive !»
hurla Agatha avant de se ressaisir.
« Excusez-moi, Doris. Je viens juste de faire une énorme boulette.
Asseyez-vous donc, ma chère Agatha. Qu'est-ce qu'il est mignon, ce petit ?»«
Ce n'est pas le problème !» se lamenta Agatha. « C'est un de mes employés. Je ne peux pas supporter l'idée d'avoir un amant que les gens prendront pour mon fils. Je ne peux pas supporter la perspective de vivre dans la hantise des rides. »
« Eh bien, il faudra que vous lui parliez sérieusement. Mais il devait vraiment en penser pour vous. Un beau gars comme ça pourrait avoir toutes les filles qu'il veut. »
On sonna. Doris alla répondre et revint quelques minutes plus tard en annonçant
« Les journalistes !»«
Il faut que j'aille leur faire une déclaration », soupira Agatha en se levant.
« J'ai une agence à diriger et la publicité ça paie. »
La presse manifestait beaucoup d'intérêt. Un meurtre au village, c'était banal. Mais un meurtre pour les beaux yeux d'une courge nommée Bertha, c'était là une garantie. Agatha s'obligea à mentionner Jake, mais redoutait de le croiser. Pendant tout le trajet, elle réfléchit à ce qu'elle pourrait lui dire. Mais à son grand soulagement, elle ne trouva personne au bureau, hormis Mrs. Friedman, la secrétaire.
Tous envolés ?
Oui, Simon cherche un adolescent disparu. Phil et Patrick sont tous les deux sur des divorces et Tony a emmené le petit Jake au supermarché pour enquêter sur des vols. Il avait l'air au septième ciel, Jake. J'ai l'impression que Tony lui plaît bien. Ils font un couple magnifique. Quand je les regarde, j'aimerais bien redevenir jeune.
Pas vous, Agatha ?
Non, moi je préfère travailler. Dites-leur que je suis retournée à Arby. Maintenant que nous sommes débarrassés du meurtre de Pita, je vais pouvoir me concentrer sur la mission pour laquelle on nous paye.
C'était une belle journée ensoleillée. Rubis, or, argent et grenat, les feuilles d'automne qui chatoyaient sur la route, semblaient métamorphoser la campagne en un vaste écrin. Mais Agatha Raisin était aveugle à toute cette splendeur. Ce n'était pas d'avoir gardé une âme d'enfant qui la faisait souffrir. C'était sa conscience qui la tarabustait comme une duègne acariâtre.
« Comment as-tu pu être assez stupide pour coucher avec ce jeune homme ? Comporte-toi enfin en adulte ! Agis comme une femme de ton âge !»
C'était un peu comme si elle avait mangé trop de chocolat ou trop bu. Elle espérait que Charles ne l'apprendrait jamais. Puis, elle se ressaisit. Charles était un ami et rien de plus. Mais son visage accusateur se présenta de nouveau à son esprit. Elle se força à penser à autre chose. Que devenait donc Gérald Devers ? Il y avait longtemps qu'elle ne l'avait pas vu. Le meurtre de Pita éclairci, l'enquête devrait s'avérer moins compliquée, mais il pouvait toujours y avoir quelque chose du côté des jardiniers, furieux que Bellington laisse construire des maisons sur leurs parcelles. Et cette affaire de diamants dans les pieds de chaise n'avait aucun lien avec Bellington. Mais cela avait valu à Agatha de se retrouver avec Jake sur les bras. Elle se crispa brièvement. Elle s'engagea dans la grande allée de Arby Hall en saluant d'un geste le gardien et prit alors conscience qu'elle n'avait aucune raison d'y venir. Elle se gara devant l'entrée principale, arrêta son moteur et s'immobilisa un instant, les mains sur le volant. Il y avait un certain temps qu'elle n'avait pas vu son amie Mrs. Blugsby. Elle se prit soudain à espérer que son engouement pour Gérald était de l'histoire ancienne. « Et à propos d'histoire pas si ancienne, se dit-elle sévèrement, il va falloir que tu te débarrasses de Jake en douceur. » Jake et Tony avaient passé une matinée fructueuse dans un vaste supermarché. La direction avait imputé la baisse des bénéfices au vol à l'étalage. Mais Tony et Jake, déguisés en magasiniers, avaient découvert que 5 employés dérobaient sans vergogne des marchandises en utilisant une des camionnettes du magasin pour emporter le tout. Il s'agissait essentiellement de matériel électroménager. Micro-ondes, aspirateurs, postes de télévision, etc. Tony et Jake avaient filmé le trafic. Jake n'en revenait pas de voir les pillards opérer ainsi au grand jour. Le gérant avait appelé la police, qui avait arrêté les coupables, et les deux détectives s'étaient retirés sous une pluie d'éloges.
« Allons boire un verre pour fêter ça, » proposa Jake. « Juste pour cette fois, » acquiesça Tony en souriant.
Ils se rendirent au café le plus proche, où Tony commanda une vodka tonique et Jake un demi.
J'adore ce boulot de détective, proclama joyeusement Jake. Et je t'adore, Tony. Ne dis pas de bêtises.
Jake contempla rêveusement Tony, si belle et si blonde. Il avait pratiquement oublié sa nuit avec Agatha. C'était juste un épisode parmi bien d'autres.
Si nous sortions en boîte ce soir, j'ai un rendez-vous.
Avec qui ? Simon ?
De quoi je me mêle ?
Agatha descendit de voiture. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était leur parler du meurtre de Pita, en scrutant leur visage et en s'efforçant de déceler leurs émotions, d'aiguillonner et de pousser de ci de là jusqu'à ce que quelque chose cède. Andrea, plus renfrognée que jamais, vint lui ouvrir et l'accueillit d'un « À mon avis, vous ne servez à rien !» avant de disparaître. Avec un haussement d'épaule, Agatha remonta le couloir.
Il débouchait sur une grande glace où elle vit se refléter une silhouette svelte, mise en valeur par un tailleur pantalon de cachemire bleu marine. Elle avait perdu du poids récemment, et le soleil, qui tombait d'une haute fenêtre, illuminait sa chevelure soyeuse.
« Pas mal ?» dit-elle.
« Pas mal du tout ?»«
Qu'est-ce qui n'est pas mal ?» demanda une voix faible et traînante dans son dos. Elle sursauta et pivota sur elle-même.
« Oh, Damian, j'étais justement en train de penser que la situation allait être plus simple à présent que le meurtre de Pita est tiré au clair. »«
Causons un peu, voulez-vous ?»
Il poussa l'une des nombreuses portes du couloir. La pièce était encombrée de bottes de chasse hors d'âge, de cravaches, de selles et d'un cheval à bascule.
« Je devrais convoquer des décorateurs, » constata Damian, « et me débarrasser de la moitié de ce bazar. Puisque je ne chasse pas, à quoi bon garder toutes ces vieilleries ?»«
Faites estimer tout cela par un bon antiquaire avant de vous défaire de quoi que ce soit. Ce cheval à bascule vaut certainement une jolie somme. »
« Excellent conseil. Trouvez-vous un siège. À propos de jolies sommes, vous avancez ou je jette mon argent par les fenêtres ?»«
Non, je commence à voir à peu près ce qui s'est passé, mais je ne veux pas vous en parler maintenant, car je peux me tromper, et vous pourriez involontairement alerter le coupable. »«
Dois-je donner ordre de réunir tout le monde dans la bibliothèque ?»«
Pardon ?»«
Vous savez bien. » Vous nous rassemblez, vous vous accoudez au manteau de la cheminée, vous nous accusez tous à tour de rôle jusqu'au moment où vous montrez quelqu'un et déclarez « Mais en vérité, c'est vous le coupable !»«
Je voudrais que vous me parliez de Mary Feathers, » éluda Agatha avec un rire contraint. « Les jardins ouvriers ont l'air de faire ressortir ce qu'il y a de pire chez les gens. »«
Ah, la sirène locale, je la crois lesbienne !»
En d'autres termes, vous avez tenté votre chance avec elle et vous êtes tombé sur un os.
Vous avez tout faux. De temps en temps, Mary prend chez elle une gamine d'une institution quelconque. Quelquefois, on les voit main dans la main, ce qui heurte les délicates sensibilités de nos villageois.
Je pourrais lui rendre visite.
C'est cela. Mais dépêchez-vous. Ma patience a des limites.
Quand Agatha se retrouva devant le cottage de Mary, elle se demanda si Charles était venu lui proposer un rendez-vous galant. Et s'il apprenait qu'elle-même avait passé la nuit avec Jake.
Agatha haussa les épaules. Charles ne s'était jamais engagé à quoi que ce soit. Dans les rares occasions où il avait partagé son lit, il n'avait pas prononcé un seul mot d'amour. Les larmes lui montaient aux yeux lorsqu'elle s'aperçut que la porte s'était ouverte sans bruit devant Mary qui l'observait.
« Une bonne tasse de thé vous ferait du bien ?» dit-elle.
« Venez vous asseoir près du feu. »
Agatha la suivit sans résister. Une belle flambée brûlait dans l'âtre et la pièce embaumait la pomme et la cannelle.
« Installez-vous, je vais chercher le thé. »
Agatha envisagea diverses excuses telles que « j'avais une poussière dans l'œil », puis décida de faire comme s'il ne s'était rien passé. Mary revint, attira un guéridon près d'Agatha et y posa une tasse de thé.
« Du lait ?
Du sucre ?»
« Nature, » répondit Agatha avec un faible sourire.
Mary prit place dans un fauteuil en face d'elle.
« Vous voulez sans doute savoir si j'ai des ragots à vous rapporter, ou si j'ai eu vent de quelque chose. »
« Non, rien d'autre que des spéculations. »
Et Mrs. Bull est si méchante langue que ce qui est étonnant, c'est que personne ne s'en soit pris à elle plus tôt. Elle a propagé la rumeur que je séduisais d'innocentes jeunes filles.
« Je fais partie du club des grandes sœurs. »
Nous soutenons des petites plus ou moins abandonnées et nous les faisons sortir de leurs institutions de temps en temps. Si j'ai menacé ce vieux crocodile, et comment ? Je lui ai dit que si elle ne rectifiait pas ses propos, je lui jetterais un sort. Il y a beaucoup de gens ici qui me croient sorcière.
Ça va mieux ?
Oui.
Vous me surprenez.
Vous étiez loin de vous montrer aussi amicale l'autre fois.
Désolée.
Je suis sujette à des accès de malveillance.
« Pourquoi ?»«
Par ennui, essentiellement, » fit Mary en bâillant et en s'étirant. « Alors je m'amuse à semer la zizanie. J'espérais vous contrarier en amenant votre Charles à s'intéresser à moi. »«
Mais pourquoi ?»«
La jalousie, mon petit. Je suis jalouse des femmes qui font carrière. »«
Et ça a marché ?»«
C'était uniquement pour vous piquer au vif qu'il est revenu en inventant cette histoire de portefeuille oublié. »
Est-ce que par hasard, vous ne vous occupez pas assez de lui à son goût ?
Il ne se soucie pas réellement de moi, et il s'en souciera encore moins si jamais il découvre ce que j'ai fait.
Et quoi donc ? Ça ne peut pas être quelque chose de bien grave.
Bercée par la chaleur du feu et la voix caressante, Agatha confessa à Mary sa nuit avec Jake. L'atmosphère de la pièce changea brusquement. Ce fut comme si la température s'était soudain rafraîchie. Agatha fit un effort et se leva.
Je devrais être en train de faire mon travail au lieu de vous assommer avec mes problèmes, conclut-elle.
Merci pour le thé. Si jamais vous apprenez quoi que ce soit, prévenez-moi.
Sitôt son hôte parti, Mary s'en fut fouillée dans une petite pile de cartes de visite posées sur son bureau jusqu'à ce qu'elle eût retrouvé celle de Charles Fraiss. Son adresse électronique y figurait. Mary alluma son ordinateur et commença à pianoter sur le clavier. Agatha aurait été folle furieuse de savoir à quel point sa nuit avec Jake avait peu marqué celui-ci. Il faisait partie de ces innombrables jeunes hommes qui estime que les femmes mûres devraient les remercier de leur avoir offert une partie de jambes en l'air sans lendemain. Toute son attention était concentrée sur Tony. Ça, c'était de l'amour. Mais en fin d'après-midi, Charles entra dans le bureau.
« Agatha est dans les parages ?»
demanda-t-il. « Elle doit revenir plus tard, » répondit Tony. « Nous terminons à l'instant. »«
Ça te dirait de prendre un pot, Tony ?»
proposa alors Jake sous le regard furibond de Simon.
« Vous ne devriez pas plutôt attendre Agatha, Jake ?»
insinua Charles d'une voix doucereuse. « Pas la peine, j'ai fini de taper mon rapport. Elle sera contente, j'ai bien travaillé aujourd'hui. »«
Tout comme la nuit dernière, dans son lit, à ce que j'ai cru comprendre, » susurra Charles.
Tony parut atterré, tandis que Jake devenait cramoisi.
« Nous avions trop bu tous les deux et... »« Dites-lui que je l'appellerai !»
lança Charles en repartant. « Agatha n'est pas aussi coriace qu'elle en a l'air, » déclara Tony à Jake au bout d'un instant. « À mon avis, tu devrais lui offrir des fleurs ou quelque chose de ce genre. »«
Mais Tony, c'était juste un accident de parcours, » gémit Jake.
« Viens, Simon, allons au pub !»
Agatha regagna l'agence à 8 heures du soir. Elle fut surprise d'apercevoir de la lumière et plus encore de trouver Jake à son bureau, la tête entre les mains. Elle s'immobilisa sur le seuil. Jake était vraiment très beau.
Vous m'attendiez ?
Oui. J'ai tout gâché et Tony ne veut plus me voir, répondit Jake amèrement. Et Charles est un salaud.
Agatha alla lentement s'asseoir. Elle avait une fois de plus renoncé au tabac le jour même, mais elle se mit à fouiller dans son sac à la recherche d'un paquet de Benson et de son briquet. Elle alluma une cigarette et les yeux rivés sur le mince filet de fumée qui montait vers les néons, elle demanda calmement.
« Qu'est-ce que Charles vient faire là-dedans ?
Vous n'auriez pas dû lui dire que nous avions passé la nuit ensemble. »
« Mais je ne lui ai rien dit. Je suis retournée à ce satané village sans aboutir à quoi que ce soit. Qui donc a pu vendre la mèche ?»
En tout cas, il avait l'air au courant. Oh, quel foutu gâchis !
Et voilà la conclusion d'une nuit d'amour, songea Agatha désenchantée.
« Quel foutu gâchis ! C'est le cas de le dire !»
Agatha toisa Jake. Réfléchissez 2 minutes, jeune homme. Je ne suis pas de marbre. Je ne suis pas votre nounou ni une figure maternelle. Et vous, vous êtes là, à vous lamenter, d'avoir compromis vos chances avec Tony?
Mais ce n'est pas pareil. Vous êtes une femme expérimentée.
Ah, n'en rajoutez pas. Ça suffira pour aujourd'hui. Des messages?
Oui. Un de l'antenne de la BBC à Gloucester. Il consacre une semaine aux femmes qui ont choisi des professions masculines. Leur entrepreneuse en maçonnerie leur a fait faux bond. Et ils se demandent si vous pourriez vous rendre à leur studio demain à 11 h.
Téléphonez-leur demain matin et dites-leur que je ne peux pas.
Non, faites-le tout de suite.
Ils sont vraiment sympas, mais je ne me sens pas d'attaque.
Jake tendit la main vers le téléphone.
Et puis non, somme toute, s'exclama Agatha. J'ai une idée. Après tout, je vais y aller. Et maintenant, je vais me coucher. Et toute seule, ce soir, comme à l'avenir. Tâchez donc de développer un minimum d'empathie et d'humanité. Ça aide dans notre métier.
En tournant dans Lyle Klein et en se garant devant chez elle, Agatha inspecta les alentours avec une certaine nervosité. La voiture de Charles n'était pas là. « Qu'est-ce que cela peut me faire ?» se sermonna-t-elle. Mais elle remit son moteur en route et se rendit au presbytère.
« Est-ce que c'est une heure indue pour bavarder un peu ?»
demanda-t-elle à Mrs. Blugsby, qui lui ouvrait la porte.
« Pas du tout. Alf est à Hancombe et rentrera tard. Entrez. »
À la lumière tamisée du salon, Agatha examina son amie. Ses cheveux étaient toujours d'un beau châtain, mais elle portait une de ses vieilles jupes informes et un chemisier. Agatha se laissa tomber sur le vieux sofa, appuya la tête contre les coussins de plumes, contempla rêveusement les flammes du feu de bois dans la cheminée et se sentit en paix.
« J'ai fait une belle connerie, » dit-elle.
« Un chéri ?»«
Volontiers. »
Agatha attendit d'avoir son verre en main. Cette histoire avait l'air tellement terrible, tellement honteuse, et voilà que tout d'un coup, ça ne me paraît plus si grave. Figurez-vous que j'ai passé la nuit d'hier avec le jeune Jake. Nous avions trop bu tous les deux et ça s'est trouvé comme ça. Jake considère que ce n'est qu'un dérapage après une soirée bien arrosée, et il est amoureux de Tony. Mais Charles a tout appris. J'ai abordé le sujet de fond avec Jake au bureau et il s'est plaint qu'il n'avait plus aucune chance désormais d'arriver à ses fins avec Tony. Et me voilà dans le rôle de l'affreuse vieille cougar.
Bien des femmes vous envieraient. Un beau garçon comme Jake n'a que l'embarras du choix.
Mais en quoi cela regarde-t-il Charles ? Franchement, Sarah, je ne comprends pas ce que ce type a en tête.
Vous m'avez appelée Sarah ?
Pas trop tôt. C'était amusant à l'époque de la société des dames. J'ai toujours voulu être une dame. Donc, Mrs. Ceci et Mrs. Cela, ça paraissait parfait.
On ressent inévitablement une certaine possessivité envers ses amis. Tenez-vous, par exemple. Vous n'éprouvez plus rien pour votre ex-mari. Mais vous êtes quand même jalouse s'il joue les chevaliers servants auprès d'une autre femme.
Comment se fait-il que les hommes puissent passer d'un lit à l'autre en toute désinvolture, sans l'ombre d'un remords, tandis que nous, les femmes, cela nous donne l'impression d'être salies ?
C'est ce qu'on appelle la féminité.
Oh, toutes ces salades, là ! Ça a disparu avec l'avènement de la pilule contraceptive. Maintenant, ça se réduit à « couche avec moi ou tu pètes ta note au resto ».
Peut-être ne sommes-nous pas suffisamment terre-à-terre, réfléchit Mrs. Blugsby. Nombreuses sont celles qui, au village, considéreraient une nuit avec Jake comme une délicieuse petite fredaine. Elles ne resteraient pas à se morfondre en proie à la plus noire culpabilité. Peut-être est-ce une partie du prix à payer pour être une vraie dame.
Une vraie dame ? Moi ? Ah ça j'adore ! S'esclaffa Agatha.
Mais lorsqu'elle arriva chez elle, elle trouva Jake sur le seuil.
Entrons, murmura-t-il en la saisissant par la taille. Agatha recula brutalement et le foudroya du regard à la lueur de la lampe fixée au-dessus de la porte.
Fichez le camp, espèce de crétin lubrique ! Tonna-t-elle.
Et à l'avenir, rappelez-vous que je suis votre chef, et une dame, pas une vulgaire bassinoire, dégarbissée.
L'air terrorisé, Jake bondit dans sa voiture.
Ah, ça fait du bien, déclara Agatha à ses chats en les caressant, assise sur le carrelage de la cuisine. Le sexe et les cigarettes, j'arrête.
Quel étrange automne, songeait Agatha en roulant vers Gloucester le lendemain matin. Les feuilles changeaient de teinte, non comme sous le pinceau d'un peintre, mais comme si un enfant armé de crayons de cire s'était dit « Celle-là, je vais la colorier en jaune, et celle-ci en orange, et puis la suivante encore en jaune, et celle d'après peut-être en rouge. »
Sur le parking de la BBC de Gloucester, ce fut le cauchemar habituel pour trouver une place. Agatha parvint à se garer, non sans endommager au passage, le rétroviseur d'une antique Ford. Elle passa à l'accueil pour le signaler, et laisser les coordonnées de son assureur à l'intention du propriétaire.
C'est une très vieille voiture, observa la réceptionniste. Attendez une minute.
Elle disparut et revint un instant plus tard.
Voilà, c'est réglé. Il a suffi de le redresser.
Les antennes provinciales de la BBC ont toujours quelque chose de sympathique et de chaleureux, se dit Agatha.
Elles jouent un tel rôle auprès des communautés locales.
Heureusement, qu'on pouvait compter dessus quand un énième thriller pseudo-scandinave envahissait le petit écran en vous faisant regretter de payer la redevance.
Et pourquoi fallait-il invariablement que les détectives des séries soient rongés de problèmes psychologiques et d'angoisse ?
Vive Columbo ! Pas de vie privée ! Aucun risque de voir débouler Mrs. Columbo !
Mrs. Raisin, par ici s'il vous plaît !
Agatha traversa le studio pour rejoindre Claire Carter, qui devait diriger l'entretien.
Nancy Sinatra braillait « These boots are made for walking »
quand Agatha prit place au micro en face de Claire.
« Je vais vous demander, » avertit la journaliste en coupant un instant le son, « si le fait d'être une femme dans une profession traditionnellement masculine est un inconvénient ou un avantage. Vous êtes déjà venue, Agatha. Donc vous savez comment ça se passe.
Claire était une présentatrice pleine d'expérience et de doigté. Un de ces oiseaux rares qui savent mettre leurs interlocuteurs à l'aise et en valeur. Agatha expliqua que l'intuition féminine était pour elle un outil précieux, puisqu'elle ne bénéficiait ni des rapports d'autopsie, ni des analyses ADN ou autres expertises médico-légales. Donc il s'agit d'observer et de deviner, conclut-elle. Claire interrompit l'entretien pour faire un point sur la circulation puis passer un deuxième disque. Agatha en profita pour solliciter l'autorisation de lancer un appel au public à propos de l'assassinat de Lord Bellington. Claire l'y encouragea chaudement et annonça en reprenant le micro « Agatha va vous demander votre aide à vous tous qui nous écoutez. Allez-y, Agatha !» Agatha exposa succinctement toutes les informations dont elle disposait sur le crime. « Il y a quelqu'un qui sait, » conclut-elle. « Je le sens. L'un d'entre vous connaît le meurtrier, et s'il ne se manifeste pas, je crains que l'assassin ne frappe à nouveau. Le coupable, homme ou femme, est sans pitié. La pauvre Mrs. Bull, précipitée au fond d'un puits, a frôlé la mort. Si vous détenez le moindre renseignement, aussi mince soit-il, appelez un de ses numéros. » Elle indiqua les trois numéros de son bureau, ainsi que son adresse de messagerie. « Songez-y bien, » insista-t-elle. « Si un nouveau meurtre est commis, et que vous n'avez rien fait pour l'arrêter, alors que vous saviez, vous devrez assumer une part de responsabilité. » Tout en manœuvrant pour quitter le parking, Agatha commença à se tourmenter. « Pourvu que cela touche quelqu'un, » pensa-t-elle. « Oh, et puis je n'ai vraiment pas envie d'aller au bureau, pour y tomber sur Jake et sa libido galopante. Pourquoi est-ce que je fais tant la dégoûter? Un tas de femmes de mon âge seraient toutes émoustillées. Il n'y a qu'à voir ces pauvres frustrés qui lisent 50 nuances de Grey. C'est peut-être vieux jeu et dépassé, mais je rêve d'un peu de romantisme. Et quelle femme n'en rêve pas? Sinon, à quoi rimeraient tous ces poèmes, toutes ces complaintes, ces aspirations à l'amour? Je ne suis sûrement pas la seule. » Elle entendit soudain la sonnerie de son téléphone, activa le dispositif main libre et répondit. « Oui, ici Nigel Faraday. J'ai besoin de vous voir. J'ai peut-être quelque chose pour vous. Vous avez encore perdu votre portefeuille? Je suis assez occupée. » « Non. Écoutez, c'est important. Ne venez pas chez moi. Vous connaissez le Green Man à Osbury? Non, mais je trouverai. Je suis à Gloucester. Est-ce qu'Osbury est près de chez vous? Traversez Chipping Norton. Continuez comme pour Oxford. Tournez dans Glimpton Road et le pub est à quelques centaines de mètres sur votre gauche. » « D'accord. Donnez-moi environ une heure, » acquiesça Agatha avant de raccrocher et d'appeler Tony pour lui dire où elle allait. Le jour s'assombrissait et des gouttes de pluie commençaient à étoiler le pare-brise. Le vent se leva. Des essaims de feuilles multicolores tourbillonnèrent autour de la voiture. Agatha se sentit soudain affamée. Elle pouvait bien se permettre quelques minutes de retard. Elle s'arrêta à la supérette d'une station-service, acheta un sandwich aux œufs durs et deux canettes de Red Bull, mais se reprocha aussitôt de ne pas avoir choisi plutôt un jus de fruits sains. « Depuis quelque temps, » déclara-t-elle à son pare-brise sur le parking, « ma vie ressemble à un perpétuel exercice d'autoflagellation. Oh diable, la mauvaise conscience !» Elle ouvrit l'une des canettes et la vida d'un trait. Quand elle eut terminé son encas, elle inspecta son visage. Elle savait que les sandwichs aux œufs vous joue facilement de sales tours en vous décorant le pourtour de la bouche de fragments de jaune sans qu'on s'en doute. Et ça, était-ce une ride? J'ai 53 ans, c'est tout, dit-elle au miroir. De nos jours, c'est comme avoir 40 ans. Un homme toqua à la vitre et Agatha la baissa. Désolé de vous déranger, lui dit-il, mais ma femme et moi ne sommes pas d'accord. Elle prétend que vous parlez toute seule et moi je soutiens que vous téléphonez avec le système main libre. « Qui a raison ?» Agatha le dévisagea avec stupéfaction. « Il fait froid et il pleut, » rétorqua-t-elle. « Vous n'avez rien de mieux à faire ?» Elle remonta sa glace et démarra.